Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct de 17h à 21h. D'abord, c'est Remue Ménage, puis c'est Les Informels de Radio Pleine Lune et ensuite les coups de cœur de Marjolaine. Et puis voilà, notre soirée en direct s'achèvera. Vous nous retrouverez en rediffusion le lendemain dès 11h du matin et peut-être déjà ce soir mercredi à 23h.
Nous vous rappelons...
Alors pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose, en fait pour aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous propose de retrouver une rencontre magnifique que j'avais pu effectuer, ceci au mois de septembre dernier. C'était au moment où Amnesty International présentait une exposition magnifique à l'Université ouvrière genevoise, une exposition dans le cadre de sa campagne « Femmes en danger, femmes engagées » ou plutôt le contraire « Femmes engagées, femmes en danger ». Et cette exposition était une série de dessins, de peintures réalisées par des enfants et des femmes, soit réfugiés, soit emprisonnés, un peu partout dans le monde. Et cette exposition était le résultat d'un travail magnifique réalisé par deux femmes, Alba Viotto, responsable d'Amnesty International à Genève, mais surtout Mariska Forest, qui est une jeune femme belge, qui, a beaucoup travaillé, entre autres, dans un camp de réfugiés à Vič, en Slovénie, à une heure environ de Ljubljana, camp très isolé, dans lequel sont venus se réfugier des Bosniaques venus de Bosnie-Herzégovine. Et elle a beaucoup travaillé avec des enfants pendant environ 6 mois, enfants et adolescents. Et elle a présenté, entre autres, dans son exposition, une bonne partie du travail effectué avec ces jeunes. Lors de ma rencontre avec Mariska, devant entre autres les dessins effectués par les enfants, elle m'avait dit un certain nombre de choses concernant par exemple son point de vue, son regard sur le travail humanitaire qui m'avait donné envie de la retrouver pour parler de cela spécifiquement. Alors aujourd'hui, je vous propose de refaire cette rencontre avec Mariska Forest. Et puis la semaine prochaine, toujours dans le même sens, dans le même fil conducteur de cette rencontre-là, eh bien, je vous proposerai de re-rencontrer 3 femmes qui étaient présentes lors de cette exposition, 3 femmes engagées et 3 femmes qui, chacune à leur façon, ont été gravement mises en danger à cause de leur engagement. C'était Cécile, qui venait du Rwanda, Marianne Odelia, qui vient de Colombie, Hilda, qui vient des Philippines. Toutes les 3 se sont très fortement engagées dans leur pays et ont été persécutées d'une façon ou d'une autre à cause de leur engagement. Et aujourd'hui, toutes les 3 continuent à se battre et à vouloir parler de ce qui s'est passé, des atteintes aux droits de la personne dans leur pays et sur leur personne en particulier, pensant que leur récit pourrait faire avancer le respect des droits de la personne et en particulier des droits des femmes. Alors aujourd'hui, la semaine prochaine, dans Remue Ménage, 2 émissions qui discutent le travail humanitaire, le respect de la personne et avec des rencontres magnifiques. Alors aujourd'hui, celle de Mariska Forest, que je vais retrouver tout d'abord devant un dessin effectuée par ces adolescents justement dans ce camp de Vich près de Ljubljana en Bosnie, qui nous permettra de voir quels sont justement ces mots qu'a utilisé Mariska Forest, qui a attiré mon attention pour avoir envie de rediscuter plus particulièrement de son engagement sur ce qu'on appelle le travail humanitaire. Mariska Forest, précisons-le, habite et travaille habituellement à Bruxelles. Elle anime un atelier de créativité autour de la peinture avec des enfants à Bruxelles, des enfants belges, mais aussi des enfants réfugiés, migrés. Et elle a fait des échanges entre les enfants de Bruxelles et les enfants de Vich, de ce camp de réfugiés. Et c'est un petit peu de tout ça dont nous allons parler. Mais elle a une histoire personnelle qui nous permet de bien comprendre pourquoi, à un moment donné, elle décide d'aller dans un camp de réfugiés. Peut-être un hasard d'une proposition autour de la peinture, qui est son engagement principal. Et puis toute une histoire personnelle qui explique profondément cet engagement. Alors, on retrouve tout de suite Mariska Forest devant un dessin, une peinture réalisée par les enfants bosniaques.
En trois parties, c'est 2 mètres, chaque partie fait 2 mètres sur 2, et cette fois-ci ça a été fait par des adolescents, des jeunes qui avaient entre 13 ans et 17 ans. Ils vivent toujours, pour une bonne partie d'ailleurs, dans le même camp, le camp de Vich, à la périphérie de Ljubljana. Le thème et le format leur étaient imposés, à savoir le format carré, x3, et le thème hier, aujourd'hui, demain. En dehors de ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La majorité de ces enfants n'avaient jamais tenu un pinceau en main. C'est la majorité d'ailleurs des enfants et des jeunes avec qui j'ai travaillé. Ils pouvaient choisir si c'était aujourd'hui, demain, quelle était laquelle de ces 3 étapes ils mettaient au milieu. Ça veut dire que pour eux, ils la jugeaient la plus importante. Ils ont choisi aujourd'hui. Je reviens à hier, ils ont peint, c'est une peinture avec des tons plutôt froids, mais beaucoup d'herbe, avec des enfants qui jouent au ballon, des maisons, une petite voiture, des arbres. Un dessin qui aurait pu se faire, je pense, n'importe où dans le monde, avec un soleil, des montagnes, calmes. À droite, je saute pour le moment le milieu, à droite, donc, qui est hier, demain, c'est plutôt dans les dominantes de rouge, parce que ça représente la guerre. Ce sont des buildings, des maisons cassées. Il y a encore un militaire et un char.
Quand vous dites le rouge représente la guerre, c'est donc eux qui ont choisi que le rouge représente la guerre.
Oui, oui. Et ça, c'est à peu près, que ce soit des enfants ou des adolescents, c'est le rouge, c'est plutôt le feu, c'est plutôt associé à la violence. Et pour eux, demain, je leur demandais, mais comment ça se fait que vous dessinez encore la guerre, cette partie-là, c'est demain. Ils m'ont dit, mais de toute façon, pour nous, on a l'impression que ce sera toujours la guerre demain. Et le panneau central, que je trouve personnellement, en tout cas, de toutes les peintures que j'ai vues réalisées en 6 mois, moi, c'est la peinture qui m'émeut toujours. D'abord, c'est les gens qui ont vu ce camp à Vich. C'est un portrait de ce camp absolument merveilleux. C'est exactement ça. Ils ont choisi de faire le fond en verre. Ça n'est pas de la pelouse, parce qu'il n'y en a pas. C'est des gravillons. Les chemins sont uniquement au fusain. Il y a 2 grands espaces rouges briques qui sont des potagers en été et en hiver sont des terrains en friche. Les maisons, ce sont des baraques en bois. Ils ont décidé de ne mettre une lumière que à la fenêtre du couloir. Tout le reste, c'est neutre, c'est vide. Et il n'y a aucun personnage. Ça, c'est eux qui ont choisi aussi en disant, de toute façon, ici, pour nous, c'est la mort. Ce sont des enfants qui sont là, des jeunes qui sont là depuis, quand ils ont fait cette peinture, depuis 3 à 4 ans. Et ils viennent tous de Bosnie-Herzégovine.
C'est vrai que c'est frappant qu'il n'y ait absolument personne, parce que dans le tableau de demain, effectivement, la guerre est représentée par des soldats, les gens sont là. Dans le tableau d'hier, il y a des enfants qui jouent, donc la vie est représentée, mais ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est vraiment le désert, il n'y a rien sur le tableau. Et moi qui ne connais pas le camp dont vous parlez, c'est vrai que ces 2 carrés rouges et rouge briques, c'est étonnant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Personne ne peut imaginer que c'est un jardin, puisqu'il n'y a strictement rien.
Ils ont... J'aurais posé la question pourquoi ils n'y mettaient pas les personnages, alors que c'est l'endroit où il y en a le plus, où ils sont vraiment l'un sur l'autre. Et eux, pour eux, ils se disent, mais chez nous, c'est une espèce de parenthèse, c'est l'ennui, c'est la mort. Faut savoir aussi que l'école en Slovénie, par exemple, est obligatoire jusqu'à 14 ans. Donc tous les enfants vont à l'école, elle est plus ou moins organisée, dans les camps ou à l'extérieur, donc une école bosniaque, puisqu'ils sont en Slovénie, c'est pas la même langue. Ils se comprennent, mais par exemple, c'est difficile pour eux de l'écrire. Ils l'ont jamais appris. Et au-delà de 14 ans, ils peuvent continuer à l'école, mais en slovène. Et donc la majorité, non seulement ils ont déjà eu 2 ans sans école, en plus c'est rentré dans un enseignement hostile, ils n'ont jamais choisi de vivre en Slovénie, dans une autre langue, donc la majorité n'y vont pas. Les autorités slovènes ou internationales le savent depuis le début, que c'est bien d'apporter des couvertures et à manger, mais quand on laisse des adolescents 2-3 ans comme ça à rien faire, on voit traîner des seringues parce qu'il faut s'occuper. Je pense que n'importe quel jeune de n'importe quelle nationalité qui serait avec une bande de copains, ben, à un moment, il faut bouger. On essaye d'avoir des moyens, donc un des moyens faciles, c'est la drogue. Alors, il y a un risque d'être conduit à la frontière, mais de toute façon, on s'en fout. Enfin, je trouvais que c'était un massacre, c'est un massacre de laisser ces jeunes sans scolarité et sans aide. À mon avis, ce sont des enfants qui sont déjà perdus presque. Alors, Mariscan s'était rencontré il y a quelques jours, un peu, hein, pour parler d'un travail que vous avez effectué dans des camps de réfugiés en Slovénie, avec surtout, puisque c'est surtout eux qui sont là, des enfants et des femmes qui ont dû quitter la Bosnie-Herzégovine, ceux-là plutôt au début du conflit, croyant, j'imagine, qu'ils allaient pouvoir rentrer relativement vite chez eux, personne n'imaginant que cette guerre allait durer si longtemps, et on ne sait toujours pas aujourd'hui quand elle a des chances de s'arrêter. Ce travail que vous aviez choisi de faire sur place là-bas était en fait un premier choix que vous faisiez de participer à un travail humanitaire, appelons-le comme ça. Mais vous nous l'aviez bien expliqué, en tout cas, rien ne vous prédestinait à faire ça, si ce n'est votre engagement dans la société. Comme vous disiez, je suis femme, je suis citoyenne, donc le sort des autres m'importe et m'intéresse. Mais c'est vrai que vous aviez une grande passion, c'est le travail culturel lié à la peinture, qui est votre propre profession. Et c'est plutôt par ce biais-là que cela a vous entraîné là-bas, que plutôt que d'être attiré par le travail humanitaire et de dire « j'emmène ma peinture sous le bras ». En discutant comme ça à bâton rompu, j'ai trouvé que vous aviez un regard qui semblait très aiguisé, très particulier sur justement le type de travail humanitaire que l'on peut faire dans un pays, soit en guerre, soit en difficulté, peu importe laquelle. Et c'est de ça que j'aimerais bien que nous parlions aujourd'hui, parce que c'est rare d'avoir des gens qui ont tout à coup une expérience très concrète par rapport à cela et qui ne se contentent pas de faire des discussions à bâton rompu sur quel type d'aide humanitaire. On en parle hélas depuis longtemps, on essaie de corriger le tir. Des gens se mobilisent pour discuter des rôles des uns et des autres. Nous, bien sûr, ici, nous sommes particulièrement intéressés et concernés par la place des femmes dans tous ces projets, parce qu'on sait bien qu'elles travaillent beaucoup tout le temps, mais qu'on ne les place pas toujours au cœur de la réalisation des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard aiguisé, cet intérêt particulier derrière quel type de travail humanitaire on peut faire, quelle relation nous pouvons avoir, nous, pays riches, à aider ceux qui sont pauvres? Je crois que vous avez une histoire personnelle qui peut en partie expliquer cela.
Oui, d'abord, je suis belge, et il se fait que les 7 premières années de ma vie, je les ai passées dans l'ex-Congo belge, donc la colonie belge. Donc mon père était colon, donc je suis une fille de colon. Je suis revenue avec mon père et ma mère en 60, au moment de l'indépendance. Donc c'était un départ pas volontaire, et un retour dans un moment de crise. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours, par rapport auquel j'ai toujours été très très concernée. Les discussions entre mon père et ma mère, qui n'étaient pas d'accord et qui n'avaient pas du tout la même vision sur qu'est-ce que c'était un Africain. Mon père, c'était plutôt un petit noir, c'était plutôt des sous-hommes. Ma mère, c'était plutôt un respect et presque une gêne d'être blanc. D'être blanche au Zaïre.
Parce que, en fait, votre mère, elle était confrontée avec les gens dans la rue, elle faisait des achats, elle avait peut-être du personnel, comme souvent les colons avaient. Votre père, il travaillait dans des institutions officielles, j'imagine.
Oui, mon père travaillait, était un responsable civil d'une région et d'une grosse entreprise belge. Ma mère, c'était la femme d'eux. Et elle était beaucoup plus en contact avec les villageois. Elle ne représentait pas forcément l'autorité. Il y avait quand même une différence, parce que c'était quand même la femme du patron. Mais en tant que femme, elle était liée à des choses quotidiennes, beaucoup plus que mon père.
Et vous, vous êtes restée à quel âge, vous me disiez ?
Jusque l'âge de 7 ans.
On a des souvenirs alors de cela.
Il y a des souvenirs très très précis. Moi, j'ai souvenir quand j'étais petite avec mes frères et sœurs, on rigolait des militaires noirs, parce qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas armés. Ça, j'ai dû l'apprendre, on a dû me le dire. Par contre, les militaires blancs, on en avait peur, parce que je savais très bien que leurs armes étaient armées et qu'ils pouvaient tuer. Un noir, ça, c'était pas très sérieux, c'était comme si c'était un jouet. Il y a des différences de j'ai des souvenirs de nourriture. Moi, je ça c'est quelque chose de plus personnel, par exemple. Mais mon père ne supportait pas qu'on aille dans jouer avec les Noirs et manger. Ma mère le comprenait un peu plus facilement parce que nous on aimait bien aller manger avec les Noirs. D'abord il y avait pas de table, on mangeait par terre, on mangeait avec les mains. N'importe quel enfant, il préfère ça que de devoir bien se tenir à table avec des couverts et surtout se taire parce que les grands parlent. Donc c'était aussi, on était comme enfant, moi j'ai un très très bon souvenir comme enfant. Je pense qu'à l'époque, je ne réalisais pas trop non plus le grand privilège que j'avais, qui était dû à ma peau, dû à mon origine.
Parce que ça, vous n'avez pas de souvenir que les enfants noirs, par exemple, vous faisaient sentir une différence. C'est une chose qui a évolué, que peut-être vous avez découvert plus tard, que ce que ça signifie de voyager, par exemple, en Afrique et d'être blanche.
Oui, comme enfant, non. Je veux dire, comme enfant, on avait à peu près les mêmes jeux. Et si la petite fille noire n'avait pas de poupée, eh ben moi, je venais avec ma poupée et puis on faisait le même jeu avec cette poupée. Et puis eux, ils avaient d'autres jeux. Et puis c'était... Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait comme ça, d'avoir ressenti à ce moment-là une différence. Je l'ai ressenti, je crois, au moment de l'indépendance en 1960. Ça, oui. Ça, j'ai ressenti une grande différence entre la population avec laquelle on avait toujours des contacts et l'armée, qui n'étaient pas de la même région et pas de la même ethnie. Et là, j'ai senti qu'on n'était pas... qu'on n'était plus les bien... qu'on n'était plus chez nous. Alors que mon père a toujours considéré ce pays comme étant le sien. Ce qui n'était pas du tout le cas de ma mère, par exemple. Ma mère n'était pas dans son pays.
Et pourtant... Vous avez gardé un attachement très particulier, quand je dis « et pourtant », c'est-à-dire que même avec cette expérience courte comme enfant, ça a laissé des marques importantes dans votre tête, dans votre vie, à tel point que vous sentiez un lien particulier. Et peut-être si à l'époque, vous ne saviez pas formuler l'idée de « c'est mon pays », vous avez eu envie d'y retourner en disant « moi, je suis attaché à ce pays d'une façon ou d'une autre ».
J'ai toujours gardé un lien... Évidemment, j'ai des souvenirs d'enfance, et puis aussi quand je suis revenue à Bruxelles, c'était aussi déjà, il y avait cette différence dans la population belge entre les colons et les autres. Les colons étant les exploiteurs et les autres, pas, évidemment que non. Donc déjà, moi, toute petite, j'étais habituée à ce qu'on me montre du doigt et à ce que je fasse partie d'une partie de la population très élitiste et que c'était comme si c'était elle qui était la seule responsable de tous les maux que la colonie belge a fait. Donc très vite, moi, j'ai été habituée aussi à me différencier de ça et à me dire, bon, je suis une fille de colon, mais il y a des choses avec lesquels je ne suis pas d'accord au niveau du gouvernement belge. Donc très vite, j'ai été habituée à prendre une grande distance comme ça et à faire ma propre opinion. Et donc je me suis retrouvée assez vite avec des gens comme moi qui pensaient la même chose, qui n'étaient pas... la solution n'est pas d'être gênée d'être fille de colon. Je ne regrette absolument pas d'avoir passé mes 6 premières années dans un pays magnifique qu'est l'ex-Congo belge, que plutôt sous la pluie à Bruxelles. Je veux dire, je pense que n'importe quel enfant, l'enfance que j'ai eue, je la regrette pas, bien au contraire. Mais je sais que c'était une enfance aussi privilégiée. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec, quand on grandit, avec des amis qui sont retournés aussi aussi avec une idée de « il faut faire quelque chose et on est responsable de ce qui arrive en Afrique », alors plutôt que de faire un service militaire qui est obligatoire en Belgique, au lieu de faire, je sais pas moi, 10 mois ou 12 mois de service militaire en Belgique, on choisit de faire 2 ans de coopération au Zaïre, au Burundi ou au Rwanda. Et tout ça, ça a été une bonne partie de mes amis qui sont partis aussi, donc ça...
les liens ont continué, c'était plus les colons, c'était la coopération, c'était quand même un peu mieux. Et puis les coopérants faisaient un peu la leçon aux anciens qui étaient leurs propres parents. Et puis maintenant, ben, c'est l'humanitaire qui fait la leçon aux colons, aux coopérants, à peu près la même leçon que les coopérants faisaient aux colons. Il y a des choses qui ont changé, parce que quand même, en X années, je pense qu'il y a des mentalités qui ont changé, mais il y a des choses qui sont tout à fait pareilles, je trouve.
C'est Mama Beate Kielski qui nous accompagne pour quelques musiques, pour cette pause, afin de retrouver ensuite Mariska Forrest dans notre conversation.